Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h34, le débat des grandes voix du vendredi, avec ce soir à mes côtés la journaliste de l'opinion, spécialiste notamment des questions économiques, Emmanuel Ducrot. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien.
L'entrepreneur et essayiste Alexandre Malafaye. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Julien.
Et Emmanuel Dutheil, le chef du service éco d'Europe 1. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien. Bonsoir.
Alors on va évoquer évidemment dans un instant l'impact économique des nouvelles mesures sanitaires et la riposte aussi des restaurateurs et cafetiers qui commencent à s'organiser. D'abord, je voudrais peut-être un mot de votre réaction sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris, cette attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, qui a donc fait 2 blessés. Alexandre ?
Toujours beaucoup d'émotion pour les victimes, pour tous ceux qui sont concernés directement et indirectement. Et puis voilà, ce rappel à l'ordre, entre guillemets, qui nous est adressé. On n'est pas encore sorti de tirer d'affaires. Je pense qu'on en a pour des années et des années. Et il faut non pas vivre avec ça, mais il faut pour le coup faire preuve de résilience et d'action en permanence pour ne pas se laisser déborder.
Emmanuel Ducrot.
Il y a 2 jours, 100 titres de la presse française ont publié une lettre ouverte à leurs concitoyens, à leurs lecteurs, pour leur rappeler l'importance de défendre la liberté d'expression. Ce texte est plus que jamais d'actualité. On est toujours dedans et il ne faut pas baisser la garde.
Bien. Emmanuel ?
Oui, effectivement, moi, ce qui m'a beaucoup choqué d'une certaine manière, c'est ces images qui sont remontées à nous, même si on ne connaît encore pas les motivations, ce qui était derrière tout ça, mais c'est vrai que ça nous a replongé dans un passé tellement terrible. On se rend compte que, je pense même chacun, à titre purement personnel, on se rend compte que la cicatrice n'est sûrement pas encore réellement faite, quand on voit, en tout cas moi, à titre personnel, l'émotion que ça a pu générer et toutes ces images qu'on espérait avoir. Peut-être pas oublié, parce qu'on n'oublie pas ce genre de choses, mais qu'on espérait avoir derrière nous, qui finalement redeviennent au premier plan.
Et on en reparlera tout à l'heure à 19h. L'économie maintenant, c'est un cataclysme qui s'annonce, alarment les responsables de bars et restaurants, après les nouvelles mesures sanitaires. Hier soir, sur France 2, Jean Castex est resté droit dans ses bottes face à la fronde qui prend de l'ampleur, à Marseille bien sûr, mais pas seulement, on va en parler, à l'image de Frédéric Jean-Jean, secrétaire général de l'UMI 13.
On se fout de la gueule du monde. Le compte n'y est pas. Que ce gouvernement arrive et essaye de se mettre à l'écoute et de savoir ce que c'est que la vraie vie et qu'il lâche un peu les statistiques, qu'il voit ce que nous vivons, ce à quoi nous sommes confrontés et qu'il essaie de trouver enfin une solution pour nous aider à affronter cette crise, parce que si nous ne l'affrontons pas ensemble, nous allons tous mourir.
Est-ce que les restos, hôtels, bars, cafés pourront tenir même avec les aides d'État, Emmanuel Ducrot ?
Alors, il y a quelques mois, au sortir du confinement, les professionnels du secteur alertaient sur le fait que 15 à 30% des établissements, cafés et restaurants en France, il y en a 230 000, étaient déjà menacés par la perte sèche qu'ils avaient subie. Et cela, malgré les allègements de charges, malgré les prêts qu'on leur a consentis.
Et le chômage partiel, évidemment.
Et le chômage partiel qui a été prolongé pour le secteur. Donc, c'est un secteur qui est déjà très, très déstabilisé, qui a été déstabilisé dans l'après-confinement, puisque les accès aux salles étaient très limités. On sait qu'une salle de restaurant commence à être rentable quand elle est pleine à 60%. Et ça veut dire qu'on n'est pas à cette jauge-là. On l'était un peu mieux, on a rattrapé une partie du retard, mais l'équilibre économique n'est pas là. Et on a un autre problème qui se profile, c'est le mur de la dette. Parce que l'argent qui a été prêté au secteur, il va bien falloir le rembourser à un moment. Oui. Et là, c'est du manque à gagner.
On verra s'il est remboursé. Certains commencent à dire que peut-être que le gouvernement...
Alors, on ne va pas prendre d'avance sur ça, mais en tout cas, on sait qu'il y aura un contre-coup fatalement à cette perte sèche de plusieurs mois. Voilà. D'autant que la saison d'été a été décalée pour une partie des cafés et des restaurants, notamment à Paris.
Et je rappelle, Emmanuel Ducrot, que 184 000 emplois ont déjà été détruits pour cette industrie au premier semestre, et c'est des dizaines de milliers qui pourraient être demain menacés. Est-ce que Samia Ghali, troisième adjointe à la mairie de Marseille, qui soutient carrément la désobéissance des restaurateurs, ils ont raison de résister, dit-elle. D'ailleurs, elle annonce que la police municipale ne verbalisera pas les récalcitrants. Est-ce qu'elle a raison d'une certaine manière ? Est-ce que vous comprenez cette fronde, Alexandre Malafaye ?
C'est très délicat de se mettre en travers comme ça en tant qu'élu élu de la nation. En même temps, elle essaye de protéger un secteur d'activité qui est essentiel et stratégique pour Marseille. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension derrière tout ça, parce que les sacrifices qui ont été consentis par l'ensemble des professionnels du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ont l'air d'être vains finalement. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont beaucoup investi, ils ont pris beaucoup de risques, ils ont sacrifié une table sur deux, ils ont mis en place des mesures dans tous les sens qui coûtent cher, et puis finalement on leur remet encore une couche et on arrête encore à nouveau de les faire travailler. C'est très difficile à
accepter
et à assumer.
Et puis le sentiment d'injustice aussi. Oui. Pourquoi eux sont pénalisés alors que les transports en commun dans lesquels les gens sont très proches les uns des autres sont ouverts ? Pourquoi les centres commerciaux sont ouverts ? Pourquoi il y a plein d'exemples comme ça. Donc il y a un sentiment d'injustice sur l'impact économique, Emmanuel Dutheil. Ouais. Est-ce que le secteur peut tenir.
Je suis d'accord avec toute l'analyse qui a été faite par Emmanuel Ducrot. Il y a une énorme partie qui ne pourra pas tenir. Parce que déjà, il faut voir que pour beaucoup, c'est des commerces qui ne font pas obligatoirement énormément de marge avant même la crise. Donc, il y en avait quand même un paquet qui n'était déjà pas extrêmement en forme. Donc, cette crise va être totalement signe de mort. Hein. Pour eux, il n'y a pas d'autre mot. Le patron national de l'UMI, qui regroupe tous les cafés, hôtels, restaurants, lui, il parle de 250 000 emplois qui pourraient encore être détruits. Alors, sûrement qu'il grossit le trait parce qu'il faut peur au pouvoir public. Mais moi, ce qui m'a impressionné quand vous questionnez les autorités qui regroupent les restaurants, les cafés, les hôtels, c'est un sentiment où on nous dit on ne pourra pas tenir nos troupes. C'est-à-dire là, il y a un sentiment de détresse. Vous savez, on
l'acceptabilité
est un peu,
des mesures
on est un peu exactement
est proche de zéro.
Dans la même situation que les crises agricoles, les pires crises agricoles. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment inquiété d'une certaine manière. C'est le possible mouvement qu'ils pourraient générer parce qu'ils ont ce sentiment que c'est la mort, tout simplement, devant eux.
Et on continue d'en parler dans une poignée de secondes, 18h40, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on est toujours ensemble à 18h41 avec le débat des grandes voix ce soir autour de la table. Emmanuel Duteil, chef du service éco, Emmanuel Ducrot, journaliste notamment à l'Opinion, spécialiste également des questions éco, et puis l'entrepreneur et essayiste Alexandre Malafaye. On parle de cette colère qui gronde dans le secteur touristique, dans le secteur hôtelier, chez les restaurateurs également, après les mesures annoncées par le gouvernement, à Aix-Marseille bien sûr, mais aussi dans 10 métropoles françaises, où à partir de lundi, les bars vont devoir fermer à 22h. Et ça aussi, ça a un impact important sur le chiffre d'affaires et l'activité, Emmanuel Ducrot.
Ben oui, parce qu'après 22h, on vend beaucoup de boissons alcoolisées. Et ça veut dire que ce sont des consommations à forte marge pour les cafés et les restaurants. Ils font une partie de leur argent et souvent ça équilibre d'ailleurs les tables quand on fait de la restauration. C'est l'alcool qui équilibre les tables. Ça veut dire un équilibre économique totalement perturbé pour beaucoup de cafés et de restaurants.
Ce qui est peut-être important de signaler, c'est qu'il y a peut-être pas mal de nos auditeurs là en voiture ou à la maison qui se disent, mais finalement, est-ce qu'un bar qui sert un peu à manger a le droit d'ouvrir ou pas à partir là, des jours qui viennent? Non, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez, quand vous créez votre entreprise, vous avez ce qu'on appelle un code NAF, et donc vous dites si vous êtes un bar, si vous êtes un bar-restaurant. Et tous ceux qui sont uniquement bar, même s'ils servent quelques tapas ou quelques assiettes, devront fermer. Et c'est vrai que ce que disait Emmanuel Ducrot, alors c'est vrai dans les très grandes métropoles, mais c'est elles qui sont concernées. On peut prendre l'exemple de Paris. Tous les cafetiers que j'ai pu avoir considèrent que le week-end, parce que c'est très, très propre au Vitaire, au week-end, c'est un gros 50% du chiffre d'affaires qui est fait après 22h. Donc c'est vrai que ça va être très 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 compliqué pour eux. La question c'est de savoir tout simplement, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir? Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont fermer, parce que s'il faut prendre du personnel jusqu'à 22h, un moment où vous n'avez personne, parce que pour faire venir du monde, pardonnez-moi de rentrer peut-être dans la technique des bars, mais ils font beaucoup d'happy hours, donc on paye moins cher les consommations en début de soirée. Bon ben là, sûrement que vous paierez vos consommations plus chères en début de soirée.
Et on est d'accord pour dire, comme le disent les représentants des professions, que les aides d'État annoncées hier encore sur France 2 par le Premier ministre Jean Castex ne suffiront pas. Exonération des cotisations sociales, des aides de 2 à 10 000 euros pour faire face aux charges fixes, des aides également pour les indépendants, 1 500 à 10 000 euros.
Elles sont indispensables, mais elles ne sont pas suffisantes. Dans l'événementiel, par exemple, ils considèrent que les aides, c'est 20 à 30% des pertes du secteur. Et pour eux, c'est encore plus grave, parce qu'à la rigueur, un bar et un restaurant, une fois qu'on lève tout ça, logiquement, ça rouvre. Et logiquement, les gens reviennent, même s'il y a une forme de peur. L'événementiel, par exemple, on ne se rend pas compte. Hein, le salon de l'auto aurait dû ouvrir hier soir. Le salon de l'auto de Paris, d'habitude, on serait en spécial. Et sûrement que, Julien, vous seriez au milieu des voitures un des stands au salon de l'auto. On aurait délocalisé Europe 1 sur place. Le salon de l'auto, c'est 2 ans de travail à relancer. Donc, c'est des machines qui vont mettre mais un temps fou. La foire de Saint-Etienne aurait dû ouvrir hier soir. Je crois que c'est plus de 100 000 personnes, la foire de Saint-Etienne. Vous imaginez l'impact économique global. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une aide pour votre entreprise que vous arrivez à passer le cap.
Alexandre.
Oui, moi, je peux une remarque de fond. C'est qu'on a vraiment l'impression que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour éviter à la fois la crise sanitaire et en même temps éviter la crise économique et sociale. Et en fait, quelque part, on est en train d'avoir les deux. C'est-à-dire une crise sanitaire qui n'en finit pas et qu'on a du mal à juguler, quelles que soient les mesures qui sont prises. Et puis cette crise économique et sociale qui a l'air de s'installer dans la durée.
Vous trouvez qu'il manque d'un discours de vérité? C'est ce qu'on disait hier soir avec mes invités.
Oui, je crois qu'en tout cas, il faudrait peut-être assumer davantage le problème en face et puis trouver le bon équilibre, parce que un pays ne peut pas durablement se mettre dans cette situation-là. Je sais bien que d'autres pays sont concernés, mais quand on regarde l'asymétrie qu'il y a, par exemple, entre la France et l'Allemagne, c'est quand même très, très frappant. J'ai un camarade qui vient de partir de Paris, qui est juste à la frontière de l'Allemagne, qui a fait un petit tour en Allemagne aujourd'hui. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est un pays qui fonctionne, qui tourne. Le virus, apparemment, n'a pas l'air de s'attraper dans la rue en Allemagne, ce qui est sans doute le cas chez nous, ce qui explique le port du masque. Voilà, il y a des vraies différences de pratiques et de comportements qui laissent penser qu'il y a une problématique d'appréhension. Alors, est-ce qu'on n'a pas confiance dans la population française? Et que finalement on prend trop de mesures et trop de mesures universelles. C'est là aussi ce que disent certainement les restaurateurs qui sont à Marseille. C'est qu'on dit on ferme tout le monde tout d'un coup. Alors il y a peut-être quand même 80% des restaurateurs qui avaient fait le job et qui le faisaient bien. Qui
on avait une soirée dans un restaurant où clairement.
Non, c'est pas vrai, Emmanuel. Oh, si. C'est pas vrai, Emmanuel. On avait hier Gérald Passeda, propriétaire du Petit Nice, restaurant bien connu. 3 étoiles Michelin. Il y a 3 mètres entre chaque table.
Mais Julien, on peut pas comparer à 3 étoiles Michelin.
Mais lui, il est obligé de fermer demain. Il y a 3 mètres entre chaque table.
Pourquoi est-ce qu'on fait pas?
Il est obligé de fermer.
On n'adapte pas, parce que la loi universelle pour.
Non, mais là,
comment
voulez-vous faire un truc qui serait...
Mais c'est quand même un problème.
On se plaint souvent
du dirigisme,
mais
il est obligé de fermer alors que les règles sont respectées plus qu'ailleurs. Emmanuel Ducrot.
Moi, je voudrais revenir sur les effets dominos que tout ça engendre, parce que le confinement a profondément déstructuré les chaînes logistiques en France. Alors, elles ont tenu. Ça a coûté très cher à tous les fournisseurs des cafés et des restaurants qui ont dû réorienter toute une partie de leur production. C'est-à-dire que ce que vous vendez en gros au café, au restaurant, il a fallu trouver d'autres marchés, réemballer des choses pour pouvoir les donner à la grande distribution parce que les gens consommaient plus chez eux. Ça a coûté très cher aux fournisseurs de l'agroalimentaire, aux coopératives agricoles par exemple, qui ont vu leur marge complètement fondre parce que cette adaptation, elle a un coût. Et donc là, c'est de nouveau un stop and go. C'est-à-dire qu'on avait recommencé à orienter les productions pour la restauration hors domicile, c'est comme ça que ça s'appelle. Il va falloir le refaire dans l'autre sens, avec cette différence que cette fois-ci, les gens ne sont plus confinés chez eux et donc ils ne consomment pas plus à la maison. Donc tout ça est extrêmement compliqué et ça veut dire que ce sont des dizaines, des centaines d'entreprises qui, dans la coulisse, vont elles aussi devoir s'adapter à cette nouvelle donne.
C'est le ruissellement à l'envers, l'effet négatif. 18h47, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, la suite du débat des grandes voix du vendredi, des grandes voix économiques aujourd'hui, avec la journaliste de l'Opinion Emmanuel Ducrot, l'entrepreneur et essayiste Alexandre Malafaye et Emmanuel Duteil, le chef du service économique d'Europe 1. Et on évoque la fronde qui monte à Marseille et ailleurs, des restaurateurs, des cafetiers, des bistrotiers face aux nouvelles mesures sanitaires. Et c'est vrai qu'il y a un risque, je voudrais qu'on en parle, ça a été évoqué tout à l'heure par Emmanuel Duteil, il y a un risque de désobéissance civile, comme l'a dit par exemple à notre micro Corinne Inesti, présidente de la CPME des Bouches-du-Rhône, au micro de Nathalie Chevance.
Certains risquent de dire « je ne fermerai pas ». Il y en a qui vont sans doute braver, bien sûr, l'interdiction, parce qu'ils ont un sentiment de ne pas être respectés. On veut nous tuer. Peut-être il vaut mieux une amende, mais je continue à travailler. Je peux essayer de me battre, de me défendre. Le chef d'entreprise, dans son ADN, c'est de résister.
Qu'est-ce qu'on fait face à ça, Alexandre Malafaye? C'est quand même un problème. Si demain, il y a des mouvements massifs de désobéissance civile, ça veut dire qu'à la crise sanitaire, on va rajouter une crise sécuritaire.
Oui, mais je les comprends, ces gens. Ils se défendent. Ils ont leur outil de travail, leur histoire, leurs collaborateurs, et en responsabilité aussi.
Donc, on les comprend, mais et en même temps, comme dirait l'autre, on ne peut pas laisser s'installer le chaos dans le pays.
Non, mais ça veut dire qu'ils vont aller au bras de fer. Et de toute façon, dans ce genre de situation, la force reste à la loi. C'est-à-dire que même si à Marseille, Samia Ghali dit que les agents municipaux ne fermeront pas ou ne verbaliseront pas, la police nationale est aussi présente à Marseille et c'est elle qui fera le job avec l'autorité du préfet qui prendra des mesures. Donc il y aura des arrêtés de fermeture. Ce sera très symbolique, ce sera très dur, très violent. Le problème, c'est que ça va encore un peu plus cliver la population les uns contre les autres.
Oui, Emmanuel.
Moi, je crois qu'il faut le prendre vraiment comme une alerte, parce que là, on sent que la deuxième vague est bien là, qu'il va falloir probablement mettre encore des tours de vis un peu en France. Et je m'interroge sur l'acceptabilité des mesures qui pourraient être prises. Oui. Ça a marché une fois, et je ne suis vraiment pas certaine que ça marchera une deuxième.
On sent qu'il y a une défiance très forte aujourd'hui dans le pays, peut-être plus forte qu'avant la première vague et le premier confinement. C'est vrai que les Français ne sont pas prêts à accepter, surtout avec la perspective des plans sociaux, avec la perspective de la récession, 1 million de destructions d'emplois prévues d'ici la fin de l'année.
Le point le plus important, c'est l'acceptabilité. Et pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que le voisin, potentiellement, à 20 km, à Avignon, par exemple, peut aller au restaurant. Le confinement avait été bien accepté parce qu'il y avait une peur collective. Et puis surtout, ça a été imposé à tout le monde. Là, c'est vrai que c'est très compliqué quand on est Marseillais de se dire, bon, bah voilà, nous, on nous met un coup de projecteur négatif. Malgré tout, je pense que ce qui est important, c'est que l'État montre quand même que ces dispositions doivent être appliquées. Si la décision d'un point de vue purement sanitaire, et moi ça j'en ai aucune idée, est bonne, il faut absolument qu'elle soit appliquée. malgré le côté dramatique.
Vous avez raison, Emmanuel, sur le côté
pour les gens. Je comprends le désarroi pour toutes ces personnes.
Sentiment d'injustice d'un territoire à l'autre, mais pendant le confinement, ce qui avait été pointé du doigt, c'est aussi que ce confinement identique pour tout le monde et non différencié avait quand même aussi questionné sur l'impact économique. Donc,
bien évidemment, c'est pour ça qu'on reconfine pas.
Des mesures.
On est en train d'avoir des mesures.
Oui, on est en train d'avoir des mesures qu'on réclamait à l'époque.
Chaque jour, Bruno Le Maire fait une réunion avec des professionnels du secteur pour leur dire « je vous donne des millions d'euros ». Encore tout à l'heure, là, cet après-midi, c'était avec l'événementiel.
Bien, il nous reste 2 minutes. Je voudrais, comme chaque vendredi, votre coup de cœur ou coup de griffe. Emmanuel Ducrot, on commence avec vous.
Ce sera un coup de griffe. Le 13 septembre dernier, des faucheurs volontaires ont détruit des cultures expérimentales de tournesol non OGM qui étaient résistants à une maladie. Ça veut dire des tournesols sur lesquels on utilise moins de pesticides. Ils ont fauché ces tournesols, ils les ont couchés à terre. Oui. Et il n'y a eu aucune condamnation publique de cet acte de saccage d'un travail de recherche.
Bien. Alexandre Malafaille.
Pour une fois n'est pas coutume, un coup de cœur pour Donald Trump, qui est en train de gagner son bras de fer. Il ne fait pas que des bêtises, cet homme-là, même si en France, on le voit souvent comme étant un mauvais gouvernant. Il est en train de gagner son bras de fer contre la Chine avec l'application TikTok. Et derrière, il y a un enjeu stratégique, c'est-à-dire le transfert des données personnelles à la Chine ou pas. Et en gagnant ce bras de fer, il va garantir que les données des Américains resteront sur le territoire américain. Et ça permet d'éviter que la Chine puisse faire un mauvais usage, parce que derrière les données, il y a souvent des entreprises qui en profitent, mais là, derrière, il y a un État qui peut en profiter. Alors que nous, en France, malheureusement, TikTok est là et les données sont déjà en Chine.
Et vous êtes vous-même sur TikTok? Parce que je n'ai pas vu passer vos petites parodies avec
non,
la
non,
musique
je ne suis pas encore. J'hésite, je pensais peut-être faire ça en studio avec vous.
On prépare ça pour vendredi prochain, c'est promis. Emmanuel, du
moi, je ne suis pas sur TikTok, mais c'est un coup de cœur pour le fait qu'un Français va gagner Roland-Garros. C'est sûr et certain, puisque c'est Babola, numéro 1 mondial du tennis. Ah. Ils équipent Dominique Thiem et Raphaël Nadal. Donc, a priori, au moins chez les hommes, on est sûr qu'une fois de plus.
Équipementier,
c'est la raquette de Raphaël Nadal, notamment. C'est la raquette de Dominique Thiem. Ils font aussi bien des chaussures. C'est le numéro 1 mondial du tennis. C'est une entreprise où ils en sont à la 5e génération. Ils sont à Lyon. Je pense qu'il y a très, très peu d'exemples.
Et donc, quand on est un équipementier, gagner Roland-Garros, ça vous
donne
des perspectives
incroyables.
Derrière,
vous voyez vos ventes largement progresser. Donc, on va souhaiter qu'un Français gagne vraiment. Mais si jamais ce n'est pas le cas, et je ne prends pas trop de risques, au moins on aura Babola.
Bon, super. Merci à tous les trois. Merci les grandes voix du vendredi.
Merci.
Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
18h55, dans quelques instants, le journal de 19h et juste après, on ouvre le Club des idées. Grand débat ce soir sur l'immobilier. Est-ce toujours le bon moment pour acheter? Et si oui, dans quelle région? On en parle avec nos invités. À tout de suite.